Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Julienne Mudinga.
Suivez bien la radio Nzamba à Kateka Kawe, c'est l'heure du journal de ce lundi 10 août 2026, dont voici d'abord les titres. 9 personnes ont été tuées, 4 autres portées disparues et plus de 80 personnes arrêtées en violation des procédures légales. Ce sont les chiffres relevés dans le rapport de l'Organisation chrétienne de défense des droits humains ACAT Burundi sur les violations des droits de l'homme enregistrées au cours du mois de juillet dernier. La même organisation déplore également le décès d'Apollinaire Aïcha qui était détenu à la prison centrale de Mimba. Tombé malade, il n'aura pas été autorisé à temps de se rendre dans un établissement de santé pour recevoir les soins nécessaires. L'organisation Parseb estime que la sélection des entreprises chargées de construire le grand marché de Bujumbura pose problème dans la manière dont ce projet est organisé. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. 9 personnes ont été tuées, 4 enlevées et des dizaines arrêtées arbitrairement au cours du mois de juillet dernier, selon le bilan mensuel de la CAT Burundi. L'organisation qui déplore la persistance des cas de violence et des droits de l'homme dans le pays dénonce également l'inaction des instances de la police et de la justice pour décourager les auteurs des crimes. Jean-Georges Kibogora nous en dit plus.
Ce rapport sur la violation des droits de l'homme de la CAT Burundi pour le mois de juillet de cette année montre la persistance et la multiplication des cas d'assassinat, des cas d'enlèvement clandestin et d'arrestation arbitraire. Il montre que ce climat s'est accentué depuis le déroulement des élections législatives de juin 2025. Le rapport fait savoir que les défis en matière des libertés publiques restent importants et que l'intolérance face aux critiques maintient une forme de retenue au sein des médias locaux et de beaucoup d'acteurs indépendants. La CAT Burundi a ainsi documenté 8 cas d'assassinat, 4 cas d'enlèvement clandestin et 1 cas d'arrestation arbitraire. Tous ces cas de violence des droits de l'homme ayant occasionné plus de 90 personnes victimes directes. La CAT Burundi constate ainsi que la situation sécuritaire et judiciaire reste inquiétante. Elle trouve que non seulement les violences graves persistent, mais aussi et surtout que la police et la justice reste trop souvent inactive ou complice. À cause de son manque de réaction, les crimes isolés se transforment en une impunité généralisée. La CAT Burundi dit avoir aussi constaté que pour le mois de juillet, il y a eu une dispersion géographique des violences. En effet, alors qu'en juin, la province de Gitega constituait l'épicentre de la criminalité, le mois de juillet révèle une diffusion de la violence sur plusieurs provinces du Burundi, Burunga, Bujumbura, Gitega et Bubanza, et donc qu'aucune région n'est épargnée par l'insécurité. Face à cette situation, la CAT Burundi appelle le gouvernement burundais à faire des enquêtes sérieuses pour punir les auteurs de ces crimes et demande également à la communauté internationale de conditionner l'aide financière à la police et à la justice à des réformes réelles sur les libertés civiles et politiques dans le pays.
Dans le même dossier, la CAT Burundi dénonce également un autre cas préoccupant, celui du décès d'Apollinaire Aïcha qui est détenu à la prison centrale de Mimba. Apollinaire avait été pris d'une crise de maux de tête et de son diabète, mais il n'aurait pas obtenu à temps l'autorisation de se rendre à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. La CAT Burundi rappelle que la détention ne prive pas une personne de son droit aux soins de santé et demande qu'une enquête soit menée afin de déterminer les raisons pour lesquelles Apollinaire n'a pas été conduit à temps pour recevoir les soins nécessaires. Écoutons Judith Basutama, chargée de la communication au sein de la CAT Burundi.
Ce décès est survenu après plusieurs jours de retard dans sa prise en charge médicale. Selon les informations recueillies par la CAT Burundi, Apollinaire Echakie, qui souffrait de diabète, a commencé à présenter une forte fièvre dès le mercredi, Et malgré sa maladie connue et la dégradation de son état de santé, sa glycémie n'a pas été contrôlée que le samedi. Selon les mêmes informations, il aurait également été empêché de se rendre à l'hôpital en raison de craintes liées à une éventuelle évasion. Et lorsqu'il a finalement été transféré à l'hôpital, son état s'était déjà gravement détérioré. Pour la CAF Burundi, ces faits soulèvent de graves interrogations sur les conditions dans lesquelles les détenus malades sont pris en charge au sein de la prison d'Ompimba et plus largement dans les établissements pénitentiaires burundais. Il y a seulement quelques jours, la CAF Burundi avait déjà lancé une alerte sur la dégradation de l'état de santé du général-major Célestin Ndayisaba, détenu à la prison de Muramvya, et demandé son transfert médical urgent. Plus grave encore, le décès d'Apollinaire Aishaki survient quelques mois seulement après celui d'un autre détenu, décédé en mai 2026 à la prison de Ngozi, dans un contexte également marqué par des difficultés d'accès aux soins médicaux. Pour Akad Burundi, ces cas successifs doivent interpeller les autorités sur les conditions de prise en charge sanitaire des personnes privées de liberté. La CAF Burundi rappelle que la privation de liberté ne prive pas une personne de son droit d'accéder. La CAF Burundi rappelle que la privation de liberté ne prive pas une personne de son droit d'accéder aux soins de santé. L'article 55 de la Constitution est clair sur ce point. La CAF Burundi demande donc l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les circonstances exactes du décès d'Apollinaire Aishaki, notamment les raisons du retard dans sa prise en charge médicale et les éventuelles responsabilités liées à ce retard ou à l'empêchement présumé de son transfert vers l'hôpital.
Inzamba.
Pour la suite de ce journal, le changement constant des entreprises chargées de construire le marché central de Bujumbura constitue un sérieux problème dans la conduite de ce projet. C'est l'analyse de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM, qui estime que l'État aurait dû mieux encadrer ses partenariats avec les entreprises privées et éviter d'attribuer des marchés à des entreprises qui n'ont pas les compétences requises. Écoutons Faustin Dikoumana, directeur national de la PARSEM.
La PARSEM vient de sortir une analyse par rapport à la reconstruction de l'infrastructure de marché central qui se fait toujours attendre. On dit que c'est l'entreprise Waka qui revient encore une fois pour reconstruire cette infrastructure. Et d'abord, pour PARSEM, le fait qu'une telle infrastructure peut passer 13 ans sans qu'elle soit encore reconstruite, ça montre qu'il y a un guise rouge. Ça montre qu'il y a un problème institutionnel au niveau de la gestion du procès de reconstruction. Deuxièmement, pour reconstruire cette infrastructure, deux voies peuvent être utilisées. Premièrement, le gouvernement peut mobiliser les moyens pour construire l'infrastructure et par après privatiser la gestion. Cette mobilisation des moyens pourrait passer à travers un crédit qui pourrait être contacté auprès des bailleurs de fonds ou un don négocié justement auprès des partenaires techniques et financiers pour construire cette infrastructure. La deuxième voie, c'est le partenariat public et privé. Mais celui-là exige une capacité institutionnelle avérée, une expertise dans la négociation des contrats, parce que ce sont des contrats complexes, et une protection juridique à partir d'une justice saine et indépendante. Le partenariat public et privé est actuellement utilisé par plusieurs pays pour mobiliser des moyens afin de construire des infrastructures. C'est l'une des mesures palliatives au problème de moyens de prix, surtout en voie de développement. Mais le partenariat public et privé comporte des risques qui, quand ils sont mal gérés, peuvent compromettre l'atteinte des résultats attendus. Même au moment de la tenue de la réunion de mobilisation des financements, au mois de décembre 2024, il y a une stratégie nationale de coopération qui a été exposée par le ministère des Affaires étrangères. À travers ce document, on précisait que le gouvernement n'a pas encore mis sur pied un cadre légal et institutionnel adéquat pour gérer le partenariat public et privé afin qu'il puisse atteindre à des résultats concrets et palpables.
La PARCEM poursuit son analyse et considère qu'il aurait fallu mettre en concurrence différentes entreprises afin de conclure des contrats mieux structurés. À défaut, cette situation risque de favoriser la corruption et les malversations tout en retardant la construction du marché. Encore une fois, Faustin Dikoumana, directeur de la PARCEM.
Actuellement, il est devenu une habitude pour le gouvernement d'outrepasser les normes et principes de gouvernance ainsi que le cadre légal existant pour choisir des entités ou entreprises signant les contrats d'exécution des travaux, donc concernant les infrastructures d'exploitation minière. Là où le bas blesse, on octroie des marchés à des entreprises qui naissent pour ces circonstances. Des entreprises qui n'ont pas d'expérience, sans moyens logistiques, sans ressources humaines qualifiées. C'est pour le cadre civil, pour l'entreprise Ouaka. Dans tout cela, il faut préciser que le code de marché public est assez clair. Il faut organiser un appel d'offres, dossier d'appel d'offres. Il faut un processus de sélection transparent. Le candidat sélectionné, il faut une signature de contrat dans la transparence. Les infos techniques qui doivent intervenir en recueillant sur l'autorité de régulation des marchés publics et la Direction nationale des marchés publics doivent jouer leur rôle. Parce qu'en dehors de ça, ça fait naître la corruption et le favoritisme. Alors que la loi anticorruption et le code pénal sont assez sévères contre le favoritisme dans les marchés publics. Pour le cas d'Ouaka Entreprise, on peut se poser la question. Est-ce que le contrat qui a été signé, quelles sont ces clauses? Est-il une concession? Comment cette entreprise pourra se faire rembourser l'argent engagé? Le principe de lever les fonds obéit à quelle réglementation? Est-il des actions? Sont-ils des actions? Sont des actions collectées ou des obligations? C'est quoi? Pourquoi l'entreprise ne peut pas recourir au marché financier actuellement, censé financer des actions de long terme d'une telle ampleur?
Dans la page sportive au football, Aigle Noir, champion en titre pour la saison 2025-2026, a remporté samedi la Supercoupe en battant Rukinzo par 6 tirs au but réussi contre 5 pour Rukinzo. C'est après que la rencontre se soit soldée par un nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Et au basketball, le club Ulunani a été sacré ce dimanche champion de l'année 2025-2026 au basketball après sa victoire sur Dynamo lors du dernier match des playoffs. Alexandre Niungeko nous en dit plus.
C'est l'ambiance qui régnait ce dimanche au département des sports où le club Ulunani venait d'être sacré champion national de l'édition 2025-2026. Les Bleus ont remporté haut la main le 7e match de la série qui l'opposait à Dynamo, son rival de tout le temps, par 80 à 71 points. En plus d'une coupe et des médailles, Ulunani a eu droit à une enveloppe de 15 millions de francs burundais et représentera le Burundi à la Rode to Ball et à la balle de cette année. Au football, c'est le club Aigle Noir, champion en titre, qui a remporté samedi la Super Coupe en battant Rukinzo au tir au but 6 contre 5 et qui a gagné la Coupe du Président cette année. Il s'agit d'un match en prélude au démarrage du championnat national pour la saison 2026-2027 qui démarre vendredi le 15 août courant, comme l'a annoncé le président de la Fédération de football du Burundi, Alexandre Muyenge, au cours d'une conférence de presse animée samedi à Bujumbura. Au cours de cette même conférence de presse, le président de cette fédération a annoncé la construction de 3 stades modernes avec tapis synthétique. Il s'agit de la pelouse du Centre Technique National de Ngagara, du stade Agasaka de Ngozi et celui de la Sesumon en province de Rutana. Bouclons par la natation où s'annonce une compétition de 2 semaines pour sélectionner les athlètes qui représenteront le Burundi dans une compétition régionale prévue en Ouganda au mois d'octobre prochain. 10 pays de le Burundi ont déjà confirmé leur participation à cette compétition, a annoncé Cassien Basogomba, président de la Fédération burundaise de natation.
Merci à toi, Alexandre Niungeko. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons notre édition. Vous étiez avec Julien Musinga au micro. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. À la prochaine.